faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Fais tomber le voile de nos yeux. Ouvre les yeux, Seigneur Dieu, de nos cœurs, afin que nous puissions te voir comme tu souhaites que nous te voyons. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons être tes intimes. Nous ne voulons pas nous contenter d'être seulement des fils et des filles. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, être intimes à toi. Entrer dans le secret de ta présence. C'est la quête profonde de notre cœur. Nous voulons te connaître. Béni sois-tu, Dieu des cieux. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci pour ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et se rasseoir. Amen. On bénit le Seigneur pour les chants du vase d'honneur Maspoya. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Salue un ami du Seigneur à côté de toi. Peut-être qu'il l'est ou il le devient et tu annonces déjà ce qu'il devient. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit, donnons la gloire à Dieu. Voilà donc déjà près de un mois que nous sommes en train de parler de comment devenir intime de Dieu, comment devenir des amis de Dieu. Amen. C'était important. Et je pense que nous le sentons réellement. Nous avons dit déjà plusieurs choses pour commencer, pour aborder ce message. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va vraiment commencer à prendre le chemin de l'intimité. Chacun essayant de se retrouver, de se positionner en ce qui concerne sa communion, son intimité avec le Seigneur. Et par rapport aux choses qui seront dites, chacun pourra voir ce qu'il a à faire. Ma prière est que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur, votre entendement, afin de comprendre la réalité de ces choses. Nous avons dit ceci, si je veux paraphraser, résumer, c'est que le besoin ultime de l'homme, c'est la gloire de Dieu ou encore la grandeur, la gloire de Dieu ou encore l'amitié de Dieu. Amen. Le vrai besoin de l'homme. Romains 3, 23 dit, car l'homme, tout homme a péché, les hommes ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Donc ce qui a disparu de l'humanité, ce ne sont pas les choses que nous cherchons aujourd'hui, comme mariage, boulot, travail, enfants et autres. Ce que nous recherchons en vérité s'appelle la gloire de Dieu ou encore l'amitié de Dieu. C'est ce que l'homme a perdu. Amen. L'homme l'a perdu dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a désobéi à la voix de Dieu. Et l'homme a perdu la gloire de Dieu. Et dès que cette gloire-là s'est retirée, alors sont nés tous les problèmes que nous avons maintenant, que nous connaissons. La maladie, la douleur, la souffrance, les larmes, les angoisses, n'est-ce pas? Et tout ce qui peut entraîner cela. La maladie et les souffrances, en fait, tout ce que nous connaissons, nous devons savoir, ne sont pas la cause du problème. Ce ne sont que des symptômes. Un symptôme, c'est un signe qui indique qu'il y a un problème. Amen. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Tout ce que Dieu a créé fonctionne à la perfection. Il n'y a pas de panne. Quand Dieu a établi une loi, on n'a pas besoin de mécanicien. Vous voyez, je l'ai souvent dit dans notre esprit d'adoration. Vous voyez, par exemple, Dieu a décidé que la terre tourne autour du soleil. Il n'y a pas d'erreur dans ce mouvement. Vous suivez avec moi? Jamais nous nous sommes levés un matin et puis on dit quoi? Le soleil ne s'est pas levé. On dit pourquoi? Il y a eu une panne. Le moteur a coincé quelque part. Il faut aller mettre de l'huile. Voilà, depuis que nos parents existent, le soleil s'est toujours levé à l'heure prévue. Il n'y a pas d'erreur possible. Les choses sont parfaites, sont exactes. Voilà comment Dieu crée les choses. Il les crée de manière parfaite. Mais il se trouve qu'il a créé l'homme. Sur la nature, il n'a pas fait d'erreur, tout est parfait. Mais en l'homme, on a l'impression qu'il y a des dysfonctionnements. L'homme tombe malade, par exemple. Avait-il été créé pour tomber malade? Non. L'homme connaît des choses anormales, des douleurs, certaines difficultés qui surviennent dans sa vie. Alors, lorsqu'on considère la façon dont Dieu travaille et ce qui arrive à l'homme, on doit se poser la question. Nous cherchons toujours à calmer la douleur au lieu de guérir le mal dans sa profondeur. Alléluia. C'est une douleur, c'est un symptôme, la pauvreté. Donc nous cherchons à dire, bon ok, il faut que j'ai de l'argent pour ne plus être pauvre. Mais tu ne viens que de, pour parler en termes médical, tu viens de prendre l'aspirine. Voilà, tu n'as plus mal à la tête. Mais ce qui a fait que tu avais mal à la tête, tu n'as pas le traité. Peut-être que c'est le palu. Hein? C'est un palu, il faut guérir le palu. Si tu t'attaques au mal de tête, tu dis non, j'ai froid. Je tremble, on dit bon, couvre-toi. Tu te couvres, tu vas avoir chaud. Mais tu n'as pas réglé le problème. Amen. Donc la pauvreté n'est qu'un symptôme. Et nous essayons de couvrir la pauvreté. On dit, bon, il ne faut plus que je sois pauvre. Les problèmes conjugaux ne sont que des symptômes. On fait tout pour rétablir la situation conjugale, mais on ne règle pas encore le problème. Et le problème persiste. Le problème, c'est que nous avons perdu Dieu. Nous avons perdu la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cette gloire-là, comme je l'ai dit, si nous la retrouvons, elle comble toutes nos aspirations et tous les besoins que nous avons. Amen. Cette gloire a été cachée. Dis avec moi, cachée. Elle a été cachée au travers par un voile. Un voile spirituel, pas un voile physique. C'est ce que nous avons expliqué depuis le début. Donc, la gloire est là quelque part, mais nous ne la voyons pas. Nous ne la voyons pas. La Bible dit que Dieu a mis deux anges avec des épées flamboyantes pour empêcher l'homme d'avoir à nouveau accès à Éden. Mais nous savons de manière certaine que ce n'est pas un endroit physique, ce n'est pas un territoire physique, mais c'est plutôt une dimension spirituelle. Amen. Parce que c'était un territoire physique avec les descriptions géographiques qui sont décrites dans le livre de la Genèse. On aurait pu retrouver l'endroit et puis voir des anges et puis voir un endroit sur la terre dans lequel personne ne peut entrer. On dit cette zone-là, on ne comprend pas, on n'arrive pas à y entrer. Non, ça n'existe pas parce que tout simplement ce n'est pas dans le domaine du matériel. C'est une dimension spirituelle à laquelle l'homme n'a plus accès. Amen. Et c'est dans cette dimension-là qu'est la gloire de Dieu, que l'homme recherche en fait. Et depuis cet instant, la mort est entrée dans l'humanité. La Bible dit par un seul homme, en l'occurrence Adam, le péché et la mort est entrée dans l'humanité. Et la mort, c'est une entité. C'est une entité qui tue ou qui réduit tout ce qui avait de la vie, que ce soit la nature, dans toutes les plantes, il y a de la vie, en nous, il y a de la vie. Et la mort, c'est comme un fluide, entre guillemets, spirituel, une entité spirituelle qui attaque le corps, qui attaque l'âme. Lorsqu'une âme commence à mourir, ça ne se manifeste pas comme la mort du corps physique. Une âme meurt avec beaucoup d'angoisse, un abattement, un effondrement moral de la personne. La personne est totalement détruite intérieurement. L'âme ne meurt pas comme le corps physique, vous voyez. Et puis l'esprit aussi qui est mort, c'est un esprit totalement déconnecté, sans lumière, sans vision, qui ne va nulle part, un esprit totalement éteint. Et la mort atteint tous ces secteurs-là. Elle tue la vie en l'être humain. Amen. Après la chute du jardin d'Éden, je l'ai dit rapidement dans mon message, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement un seul voile qui a été posé entre l'homme et la gloire. Il y en a eu encore deux autres. Donc il y a eu le premier voile pour nous empêcher d'entrer en Éden. Le deuxième voile nous a encore séparés. Et puis il y a eu le troisième voile. Le deuxième voile, il a dû se produire dans la période du déluge, n'est-ce pas? Quand Dieu s'est encore fâché contre l'humanité et il les a encore éloignés de lui au travers du déluge. Donc d'abord, lorsque Adam a péché, il s'est séparé de Dieu, mais il y avait encore beaucoup de divinité en lui. Alors, les personnes de la génération de Adam, ses enfants, étaient des personnes qui étaient capables de vivre jusqu'à 900 ans, près de 1000 ans. À partir de Noé, la Bible dit que l'homme ne va plus atteindre ces âges-là. Il va partir aux environs de 120 ans. Il y a eu encore donc un voile. L'humanité va décevoir Dieu et Dieu va encore l'éloigner. Elle va encore s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas que Dieu qui éloigne. Les hommes vont encore s'éloigner de Dieu et ils vont favoriser davantage la mort dans leur corps. Et la mort va venir, elle va être encore plus pressante, plus puissante, ne les laissant même plus vivre jusqu'à 900 ans, mais arrêtant leur vie aux environs de 100 ans, 115 ans, au point où même Moïse pouvait dire plus tard, n'est-ce pas, que les plus vigoureux sur la terre atteignent 80 ans. Et les plus vigoureux sur la terre atteignent 80 ans. Quand tu atteins 80 ans, tu es un patriarche. Tu es un patriarche, tu as dit vraiment. Or, avant, à 80 ans, tu étais encore un enfant. Parce qu'il y a des gens qui avaient 900 ans. Quand ils te voient, petit, mais tu es un gamin. Oh, tu as 80 ans. Le monsieur qui est là, il a 700 ans. Tu vois? Là, quand tu as 80 ans, hein, voilà. Amen. Ok. Donc, il y a eu trois voiles. Donc, il y a eu le voile du déluge, dans la période du déluge. Il y a encore un autre voile que Dieu a mis au moment de Babel. Lorsque les hommes, et là encore, c'est une vision spirituelle. Amen. Il faut comprendre que ce sont des choses spirituelles. Si vous voulez comprendre le fond de ces choses-là, il faut vous inscrire à l'école porteur de vie. Amen. C'est là que j'explique tous les mystères cachés. Alléluia. Oui, Babel a encore une vision spirituelle. Ce n'est pas que Dieu a eu peur que les hommes atteignent le ciel. Le ciel physique, là. Ce n'était pas le ciel physique. C'était autre chose qu'il cherchait à atteindre et dont l'image physique était une tour. Aujourd'hui, il y a des gratte-ciel qui touchent les premiers nuages. Dieu ne les a pas cassés. Il y a des avions qui survolent les nuages. On va même sur la lune. Donc, il ne s'agissait pas d'une vision physique. C'était quelque chose d'autre. L'homme voulait de manière illégitime, illégale, atteindre certaines hauteurs spirituelles sans y avoir accès, donc de manière détournée par les œuvres de l'occultisme, entrer dans une dimension qui leur était interdite, mais par le mal. Ils ont commencé à bâtir, à s'organiser. Et Dieu a mis encore de la confusion, et c'est là que sonnait encore vraiment davantage de guerre et de troubles, parce que les hommes ont commencé maintenant à ne plus pouvoir s'entendre, se comprendre sur des projets. Et c'était là le troisième voile qui est tombé sur l'humanité. Amen. Amen. Donc, nous avons trois voiles à passer si nous voulons retourner dans la gloire. Alléluia. Mais tous les hommes en étaient séparés. Tous les hommes en étaient séparés. Et Jésus-Christ est venu pour la restauration, justement, de la gloire. Jean chapitre 1, verset 14 dit ceci. Jésus est la parole et dit, en lui était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Vous savez, la gloire, c'est très rattaché au mot lumière. La gloire, c'est la façon dont quelque chose brille, la brillance, la lumière d'une chose. Et la Bible dit que en Jean chapitre 1, que Jésus est la parole, et que dans la parole était la vie, et que la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ est revenu avec la gloire. Alléluia. La gloire que l'humanité a perdue. Ce qui donnait aux hommes des capacités extraordinaires. Ce qui aurait dû donner aux hommes. Parce que même Adam, n'a pas, Adam devait atteindre toute la gloire, mais il n'avait pas encore totalement atteinte. Amen. Jésus-Christ nous donne quelque chose de supérieur. Quand j'aborderai peut-être l'enseignement sur connaître Dieu, on touchera ces choses-là. Amen. Donc ça, pendant Jean chapitre 1, verset 4, Jésus porte cette lumière. Et cette gloire avec laquelle Jésus est venu, il l'a laissée sur la terre. Mais où? Dans les croyants. La gloire de Dieu, la lumière dont les hommes ont besoin, se trouvait en Jésus. Et cette lumière-là est déportée dans la vie de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie se pose en eux. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, pas Christ en dehors de nous. C'est lorsque Christ est en toi que la gloire divine que tu avais perdue commence, n'est-ce pas, recommence à nouveau. Amen, amen. Amen. Maintenant, tout notre enjeu consiste à aller chercher en nous, pas à l'extérieur de nous. C'est-à-dire Éden, la gloire de Dieu ne vient pas de l'extérieur. La gloire de Dieu est en toi si tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, l'amitié de Dieu consiste à aller puiser en toi. Amen. Au travers des expériences que tu vas connaître, au travers de la vie, au travers des frustrations, toutes les choses qui vont arriver vont concourir à ton bien en ce sens que elles te conduisent progressivement à passer ces voiles et à atteindre l'étape de l'amitié de Dieu. Lorsque tu es confronté à des épreuves, à des situations frustrantes, n'est-ce pas? Lorsque Dieu permet aux méchants de t'atteindre, ne sois pas paniqué. Le but de Dieu, c'est que tu te travailles toi-même. En réalité, les pressions extérieures viennent pour nous amener à nous transformer de l'intérieur. Le problème n'est pas à l'extérieur. Et je me suis rendu compte dans ma soif de toucher l'Éternel, le Seigneur Dieu. Je me suis rendu compte que, parce que j'avais pas compris ça de cette façon au départ. Et j'ai compris que plus je travaillais sur moi-même, plus le monde changeait autour de moi. pour avoir la conversion des autres, pour avoir le changement dans la vie d'autrui. Lorsque je remarquais des choses négatives autour de moi, je constatais que je n'avais qu'à m'améliorer, à travailler en moi-même. Et plus je le faisais, plus les choses changeaient autour de moi. J'ai vu que l'enjeu de la vie chrétienne, même de l'évangélisation, ça ne consiste pas à essayer de transformer les autres, mais ça consiste à essayer de se transformer soi-même. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, par exemple, aux femmes, il dit, si ton mari ne se convertit pas parce que tu lui parles, il dit, toi-même, travaille ta personne. Il dit, c'est en voyant ton attitude qu'il finira par se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Il y a des années de cela, mon cousin, pasteur Moustapha, il n'était pas encore chrétien, me disait, on savait que j'étais chrétien, mais lorsqu'on me voyait, on n'avait pas envie de suivre Jésus. Oui, j'étais chrétien, je veux la sainteté, je veux la sanctification, pas de problème, mais j'étais, je sais pas, je dégageais quelque chose. Je dégageais quelque chose. On sentait que je parlais de Dieu. J'étais pas faux, j'étais pas hypocrite, mais je n'attirais pas les hommes à Christ. Et je vais être confronté à différents échecs dans la vie et puis à des succès. Entre mon échec au bac, et mes difficultés pour me marier. Pendant le mariage, je vous ai souvent parlé de cela. Je pensais que le problème, c'était ma fiancée. C'est vrai que peut-être elle avait des défauts, elle avait des choses à corriger. Mais lorsque Dieu est venu me parler, Dieu m'a pas parlé d'elle, il m'a parlé de moi. Et lorsqu'il a touché des choses dans ma vie, il a corrigé, il m'a appris à nouveau à aimer, à pardonner, il m'a appris à apprendre à regarder les hommes autrement. Lorsqu'il a changé cela, ma fiancée est revenue, nous nous sommes mariés. Mes frères, mes parents ont commencé à se tourner tous vers le Seigneur. Je parlais de Dieu avant, mais quelque chose s'était produit. Le même Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Je me suis rendu compte de cela. On me demande aujourd'hui, mais comment on fait? D'autres viennent, mes pasteurs, ouvre-nous les portes. On va aller prêcher un peu partout. Comment on fait? Les gens sont étonnés. Les moyens qu'on peut déployer pour l'évangélisation. Mais ce sont des choses que je n'ai jamais vraiment cherchées. Par exemple, l'argent. Je ne cherche pas l'argent. Voilà. Profondément, je vous le dis. Je ne cherche pas l'argent. Je ne prie pas pour l'argent. Mais, plus ma vie est transformée, plus je constate que l'argent me cherche. C'est-à-dire, alléluia. Moi-même, je ne le cherche pas. Mais l'argent même me poursuit. Alors, j'ai compris que, la clé, c'est pas d'aller chercher les choses à l'extérieur, c'est de chercher les choses à l'intérieur. Plus tu te transformes, plus. Non, quand j'ai dit l'argent suit, mes amis, c'est pas faux, hein. Les gens te cherchent. Ils prient même que tu leur donnes un rendez-vous pour venir te faire une offrande. Non, non, sérieux. Je n'ai jamais fait d'appel ici pour vous dire, j'ai un problème, venez me donner quelque chose, venez, on va financer ça. Non. Les gens t'appellent, mon pasteur, viens ici, on va tout prendre en charge. Quand tu dis, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disposé. Et je me suis rendu compte que la Bible dit que vous savez, la perfection de Dieu se voit à l'œil nu quand on le considère dans les œuvres qu'il a faites. Même dans le monde, lorsqu'une personne travaille sur elle-même, et qu'elle devient compétente dans un domaine, l'argent la poursuit. L'argent la poursuit. Toutes les personnes qui ont travaillé, leur manière de parler, leur façon d'être, qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui sont devenues talentueuses dans tous les domaines que Dieu leur avait donnés, on les poursuit pour qu'ils viennent animer. Viens. Comme je cite par exemple notre footballeur national, Drogba. Oui, vous savez, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent déjà. Mais s'il rentre dans ton magasin, tu vas prier pour qu'il porte tes vêtements, ta griffe à toi. Quoi? C'est-à-dire, il a suffisamment d'argent pour acheter ton magasin. Mais tu vas lui donner, tu es prêt à dépenser encore pour lui donner parce que c'est important que lorsqu'il marche, on voit le nom de ton magasin sur lui. Il a de l'argent, mais l'argent le suit. S'il rentre pour dire qu'il veut acheter une voiture, on va dire non, monsieur, prenez la voiture. Parce que quand vous conduisez la voiture, tout le monde veut acheter notre voiture. Donc on lui offre. Il a beaucoup d'argent et on lui en donne encore davantage. Il n'achète presque rien. On leur téléphone. On dit, non, il faut que tu sois dans notre compagnie. Toi seulement, tu ne payes pas de factures. Il n'a pas de problème pour payer la facture. Mais on lui dit, tu ne payes pas parce que c'est toi qui fais notre publicité. Lorsqu'on voit ton numéro, ça attire pour nous beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il n'est pas parti frapper aux portes des sociétés de téléphonie pour dire, prenez-moi. Aujourd'hui, par exemple, il fait la publicité de, bon, je n'ai pas dit la marque, d'une téléphonie. Mais ce n'est pas des choses après lesquelles tu cours. Mais ça, si vous demandez combien de cellulaires de cette forme-là il a dans sa poche, il y en a plein. Il n'a pas acheté. Pourtant, il a les moyens de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il n'a travaillé que sur lui-même, développer son potentiel footballistique. Et lorsqu'il l'a fait, toutes les autres portes lui sont ouvertes, les choses le poursuivent. Dieu dit que la gloire ne consiste pas à essayer de convaincre les autres, mais consiste à essayer de se convaincre, de se comprendre, de se connaître. Parce que pour arriver à cette dimension, pour prendre l'exemple humain de ces sportifs, ce sont des gens qui se privent de beaucoup de choses. Pendant que toi tu dors, tu prends le petit déjeuner le matin, lui il se lève à 4 heures, il commence à faire des pompes, à faire des abdos. Il commence à faire, il fait un footing. Il se prive. Il fait des jeûnes et prières. Pas prières, mais jeûnes. Oui, il arrive à des réceptions. On met des gâteaux devant. Il se dit, si je veux continuer à bien jouer, je dois manger ces friandises. Parce que ça va m'alourdir. Tout cela pour une gloire humaine. Il se prive. Il y a des endroits dans lesquels il part pas. Parce qu'on dit, non mon ami, tu es l'image d'un pays. Tu es l'image d'un club. On ne peut pas te trouver ici. Il n'essaie pas de transmettre les autres. Il essaie de dominer ses envies, ses pulsions. Même s'il était quelqu'un de... Vous voyez, il y a des footballeurs qui ont détruit leur carrière pour cela. Ils n'ont pas pu maîtriser leurs pulsions par rapport aux boîtes de nuit ou à chercher les filles partout. Mais ça détruit leur carrière. Leur problème de caractère. Alors ces personnes-là, pour aller loin, se privent de beaucoup de choses. Se privent de beaucoup de choses, apprennent à dompter leurs pulsions, leurs envies, leur envie de manger ceci, leur envie de se faire plaisir. Ils domptent leur sommeil. Ils ont compris qu'on ne peut plus dormir comme on souhaite. Tout le monde a envie de faire la grasse matinée. Mais ces gens-là, j'ai mon bel oncle qui est footballeur professionnel. Je suis allé rester quelques temps avec lui, il était en Espagne. Et tu vois la vie. D'abord, quand tu vois tout le système sportif dans sa maison. Et avec tout ce que tu fais au terrain, là, tu viens t'entraîner encore ici. Toute l'énergie qu'ils déploient pour une gloire, mais le travail qu'ils font, c'est sur eux-mêmes, pas sur autrui. Ils vont s'arrêter devant un endroit, tirer plusieurs fois, apprendre leur tir, développer. Il peut passer une demi-journée en train de travailler ceci. Dieu dit, si les athlètes sur la terre, pour des gloires qui ne leur serviront pas pour l'éternité, sont capables de faire des choses pareilles. Et pour vous, par rapport à la couronne céleste. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on comprend que ce que Dieu présente comme étant la gloire n'est pas à l'extérieur de nous. Il se trouve en nous. C'est le travail que nous faisons sur nous-mêmes qui nous amène à toucher la gloire. Pas le travail que nous faisons envers autrui. Pas des prières. Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. C'est un travail sur toi-même. Et la Bible dit, tu dois rechercher la gloire ou le royaume de Dieu plus que toute autre chose. Amen, amen. Amen. Dans votre marche avec le Seigneur, ou bien par rapport à notre enseignement, par rapport à notre tabernacle, il y a trois grandes expériences. Par rapport, bien sûr, aux trois voiles, alléluia, qu'on a citées. Il y a trois grandes expériences que vous allez vivre pour entrer dans la gloire. Parce que tu vas y aller, dis un voisin, j'y vais. De toute façon, je te l'ai dit la dernière fois, dans la vie, tu te bats forcément pour quelque chose. Tu te bats forcément pour quelque chose. Choisis seulement ce pour quoi tu vas te battre, c'est tout. Il y a des choses pour lesquelles tu veux te battre, mais qui ne porteront pas du fruit pour l'éternité. Il y a certains combats qui doivent être menés. Dans la vie, on se bat forcément pour quelque chose. Même si tu refuses de te battre, le palabre va venir te trouver là où tu es. Même si tu refuses de faire palabre avec qui que ce soit. Si tu es assis dans la maison, tu dis, j'ai dans la vie, moi je n'écoute après rien. La maladie même va venir te trouver là et ton corps sera obligé de se battre contre la maladie. La vie est un combat. Maintenant, il y a des hommes qui choisissent leur combat. Alléluia. Et qui le mènent de manière sérieuse. Donc, si tu ne veux pas te battre, sache que l'adversité même va venir te trouver dans le calme où tu es. Donc, lève-toi et attaque. Sois violent. Amen. Amen. Donc, on n'a pas le choix. La guerre nous est imposée. Pas la guerre des hommes, hein, comprenez. Dans ce pays-là, il faut faire attention. Amen. La guerre contre nous-mêmes, contre nos pulsions. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, la guerre sur toi-même t'est imposée. Parce qu'il y en a qui comprennent toujours mal les messages des gens. On dit, Pasteur Sanogo a dit, prenons les armes ici. Amen. Alléluia. Donc, ces trois grandes batailles, tu dois les livrer. Il faut te mettre dans la tête que je vais combattre. Je vais me battre contre moi-même. Je vais quelque part. La gloire est tellement précieuse que je ne peux pas l'acquérir par une simple demande. Je dois la chercher. Je dois la chercher plus que tout. Alléluia. Alléluia. Et les trois grandes expériences, celle par laquelle la majorité, je l'espère, d'entre vous sont déjà passées. La toute première, c'est la nouvelle naissance. Quelquefois appelée la conversion. Ce n'est pas le mot juste, mais en fait, ce qui est juste, c'est plutôt la nouvelle naissance. Amen. La deuxième expérience, c'est la conversion. On est de nouveau, et puis après on se convertit. Amen. Bon. Par abus de langage, habituellement on dit, convertis-toi. C'est pas faux. Jésus a dit ceci à Pierre. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, or Pierre avait déjà accepté Jésus, vous suivez? Il dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà, conversion dans le sens de transformation. Amen. Alléluia. Donc il y a la nouvelle naissance, il y a la transformation, que la Bible aussi appelle la conversion. Amen. Et puis, il y a l'expérience même de l'intimité, de l'amitié. Amen. Amen. Ce sont des choses que tu vas vivre. Ce qui va t'y amener, on a cité quelques-unes. Ce qui va t'y amener, la nouvelle naissance, tu as l'espérance. Je vais parler de la nouvelle naissance rapidement aujourd'hui. On a aussi ce qui te transforme. Ou encore, ce qui t'amène à la conversion. La conversion, c'est le changement. Amen. Parce que quand tu nais de nouveau, c'est une vie de l'esprit. Ça veut dire que le changement n'est pas encore palpable. Il vient par la suite. Amen. Ce qui va t'amener, va te transformer, c'est ce qu'on explique, on parle de la maturité spirituelle, on va parler de la foi. C'est le fait de grandir. Vous savez, lorsqu'un enfant est né, il est un homme. Un bébé qui naît, il est homme, il est humain. En lui, il y a les aptitudes de tous les humains. En lui, il y a la capacité de se tenir sur ses jambes et de marcher sur deux jambes. Mais il ne les utilise pas encore. Dans le bébé, il y a le potentiel de la parole. Mais ce qu'il raconte, c'est un peu comme un animal. On dit, qu'est-ce que tu dis, petit? On ne comprend rien. Il a ce potentiel. Il a le potentiel de voir, d'entendre, de comprendre. Mais parce qu'il est nouvellement né, ces fonctions-là ne sont pas encore actives. Amen. Ça, c'est un peu comme ça la nouvelle naissance. Mais il est différent des animaux. À un moment donné, il va même marcher comme un animal. Il fait les quatre pattes. Mais il n'est pas un animal. Il n'est pas un animal. C'est un homme. Alléluia. Et au fur et à mesure, avec la maturité, la détermination. Parce que pour apprendre à parler, un enfant doit être déterminé. Les parents doivent insister. Si tu le laisses comme ça, il ne parlera pas. Papa, maman, ton frère, télé, tout ça, vous lui parlez. Il y a un travail qui est fait. La voix, la parole est en lui. Mais elle doit être exercée. On doit la travailler pour qu'elle puisse se manifester. Sinon, elle est là. Alléluia. L'enfant a la capacité de lire et d'écrire. Mais il ne va pas lire et écrire par enchantement. Un matin, il se lève, il sait lire et écrire. Voilà. À l'école primaire, il y avait Tony Banani. L'enfant, quand il est né, il avait des dents, il savait parler. Ce n'est pas ce cas-là. Mais toutes ces choses sont potentiellement dans le bébé, mais elles vont se développer par l'exercice. La vie chrétienne aussi est pareille. Après la nouvelle naissance, il y a une série de choses qui ne peuvent se manifester que par l'exercice, par un travail constant. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on a des difficultés à avoir un enfant à un an et demi, c'est pas bien parlé. On n'est pas, il n'y a pas un problème avec ça. C'est pas, il n'a pas de problème. Mais s'il a 15 ans, on dit pourquoi tu ne parles pas? On dit non, ses parents ne lui ont pas appris. Voyez, amen, il a la maturité. Et après la maturité maintenant, rentre la période maintenant de l'intimité. Parce qu'il comprend les choses, parce qu'il peut parler, il fait des, parce qu'il a la capacité de choisir, de décider. Alléluia. Alors, il choisit ses amis. Il décide d'être ami. Et c'est là la troisième étape qu'on passe le troisième voile spirituel. Mais j'ai cité un exemple humain pour que nous puissions saisir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donne-moi un bon amen vitaminé. Amen. Donc la nouvelle naissance, appelée quelquefois aussi la conversion. J'espère que vous êtes nés de nouveau. Mais il y a malheureusement beaucoup de personnes qui fréquentent les églises qui ne sont pas nées de nouveau. Jésus-Christ n'est pas encore dans leur vie. Ces personnes-là, là nous nous retrouvons au niveau de l'extérieur du parvis. Est-ce qu'on peut me ramener notre image du tabernacle? Amen. Alors je vous ai dit que pour toucher les différents niveaux d'intimité avec le Seigneur, nous allons prendre comme modèle de progression le tabernacle de Moïse. Là, on voit la première partie. Amen. Donc, vous avez l'extérieur du tabernacle. Cet endroit que la Bible appelle, la Bible définit les personnes qui y sont, les gens du dehors. Mais il y a des personnes aussi qui sont dans le tabernacle, dans le parvis, qui sont dehors par rapport à l'attente de la rencontre. Amen. Donc, il y a les gens du dehors. C'est à ce niveau-là, à l'extérieur, qu'on n'est pas né de nouveau. Lorsqu'on se convertit à Jésus, lorsqu'on naît de nouveau, dans le monde spirituel ou à l'intérieur de nous, c'est comme si on passe ce premier voile. On est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, la transformation dont je parlais tantôt, la conversion, la maturité, l'exercice va se produire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu es quelque part. Dis à un voisin, tu es quelque part. Retrouve-toi. Voilà. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'aime l'expression, il ne peut voir. Vous voyez? Quand tu ne peux pas voir une chose, ça veut dire que tu as un voile. C'est pas ça? La Bible dit que pour pouvoir voir les choses de Dieu, il faut passer un voile. Le premier voile se passe par la nouvelle naissance. Et c'est ce voile-là que Moïse avait représenté ici. C'est un voile ou bien un rideau. Dans le tabernacle, on le décrit comme étant un rideau. Mais les murs étaient assez hauts, un peu moins de 2 mètres, n'est-ce pas? Environ 2 mètres. Et quand tu étais à l'extérieur, tu ne voyais pas à l'intérieur. Et tu ne peux pas devenir ami de Dieu. Il faut que tu passes ce rideau. Alléluia. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème en Jean chapitre 3. Nicodème était un docteur de la loi. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, voyez bien le verset 6. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Dis avec moi. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que, en introduction, que Éden, la gloire, c'est en esprit. La chute de l'homme, c'est une chute spirituelle. Ce n'était pas dans le monde naturel. L'homme, au fur et à mesure, est devenu très naturel, très charnel. Amen. Jésus dit que pour connaître les choses de l'esprit, il faut naître en esprit.
tout ce qui est né de la chair,
c'est-à-dire si tu es né de ton papa et de ta maman physique, là,
et que tu considères que ce niveau d'existence, tu seras chair. Tout ce qui est né de la chair est chair. Mais pour accéder aux choses spirituelles, il faut naître de l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. C'est une naissance qui ne change pas votre corps physique. C'est ce qu'il explique. Parce que le corps physique, là, il est déjà chair. Ce qui est né de la chair est chair. Mais votre esprit, lui, est transformé par la nouvelle naissance. Et c'est là que commence le film, notre voyage. Amen. Mais l'esprit, ton esprit est un enfant, ton esprit est un bébé. On va y arriver. Donc avant de passer par la nouvelle naissance, décrivons un peu les personnes qui sont à l'extérieur, les gens du dehors. Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Le Seigneur décrit ceux qui sont nés de nouveau en Éphésiens chapitre 2, verset 19, comme des personnes qui ne sont plus du dehors. Dis avec moi, dehors. Dehors. Malheureusement, nous avons encore beaucoup de gens qui fréquentent les communautés qui sont dehors. Touchez un voisin, dis-lui c'est le temps d'entrer. Si le voisin sait qu'il est dedans, dis mon frère, j'y suis. Si tu n'y es pas aussi, tu dis, je viens. Je veux. Et les personnes qui sont dehors n'ont pas la révélation de Dieu. Marc chapitre 4, verset 10 dit ceci. Et quand il fit en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent touchant la parabole. Il leur dit, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toute chose se traite en parabole. Amen. Dimanche dernier, je vous parlais des mystères qui sont dans la nature. De toute la gloire que Dieu a cachée dans les plantes, dans le corps, dans tout ce qui existe. Le monde voit les choses en parabole. Le monde ne sait pas que les nuages parlent, que la terre vit. Le monde ne comprend pas. Le monde croit que c'est une parabole, mais c'est une image. Lorsque Jésus commence à parler au vent, à la tempête, pour dire, arrête-toi. Le monde n'arrive pas à saisir que Adam et Ève parlaient aux animaux. On croit tout cela que ce sont des vues de l'esprit. C'est une réelle dimension. Alléluia. Alléluia. Et je dis ceci, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Vous savez, même chez les païens, ce qui a fait qu'ils ont régné, c'est parce qu'ils ont découvert des choses qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas. Newton. On a tous vu Newton à l'école, non? Voilà. Il a écrit les lois sur la pesanteur. On lui donne, on dit, les lois de Newton. Mais il n'a rien fait. Il a simplement constaté et il a essayé d'établir, de voir comment les objets sont attirés vers le sol. Il a essayé de comprendre la loi que Dieu avait créée. Et lorsqu'il a compris la loi, il a eu un grand nom. Einstein a compris les lois de Dieu. Il a eu un grand nom. C'est quand vous allez découvrir certaines choses. Et les fils de Dieu vont être révélés dans les temps de la fin. Parce que justement, ils vont avoir la connaissance de choses nouvelles. Or, la Bible dit quoi? Que ceux qui sont dehors, tout ce qu'ils voient de Dieu n'est que parabole, n'est que semblant. Mais pour ceux qui sont dedans, Dieu explique les choses cachées. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, qui est dehors? Dehors, il y a des gens qui sont très loin. Ça, ce sont les païens qui ne s'occupent même pas de l'évangile. Ça veut dire Jésus même là. Jésus, vraiment, Jésus ne dit rien. Il y a ceux qui sont loin. Eux, ils ne nous intéressent pas trop. Ils nous intéressent dans le sens qu'il faut aller vers ces personnes pour leur annoncer la parole de Dieu. Il y a des personnes, par contre, qui ne sont pas loin, c'est-à-dire qui gravitent autour de la clôture. Mais ils ne veulent pas y entrer. Et certainement que dans l'église, il y en a parmi nous. Il y a des personnes qui ne sont pas loin. Jésus parle d'eux. Il a dit à une personne, Marc 12, 34, et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Hein, Jésus a dit à quelqu'un, il dit, tu n'es pas loin. du royaume de Dieu. Dieu n'est-il pas en train de te regarder ce matin et en train de dire, ma fille, tu n'es pas loin. Au début, je pensais que c'était un encouragement. Mais il dit, bon. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas loin. Ils sont autour là. Vous avez plusieurs catégories. Ce sont des personnes qui fréquentent l'église, qui entendent la parole de Dieu, qui ressemblent à des chrétiens. Il y en a même qui vont jusqu'à développer des dons spirituels. Prier en langue, chasser les démons. Mais ces personnes ne sont pas nées de nouveau parce qu'elles n'ont jamais vraiment donné leur vie à Jésus. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de leur vie. Certaines parmi elles sont nées dans des familles chrétiennes, ont fréquenté l'église. Ce sont des personnes religieuses. Jésus, ce n'est pas la religion. Jésus parlait à ce Nicodème. Nicodème était un religieux. Il dit, Nicodème, tu es né de la chair, tu ne comprends rien. Il faut que tu naisses de nouveau. Et je veux parler à certaines personnes. Il y a des gens qui viennent ici à l'église, vase d'honneur. Ah, c'est bien, ils aiment bien entendre le message du pasteur Sanogo. Il parle bien. Mon frère, tu n'es pas loin. Et tu n'es encore dehors. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 8. Avant même Jean chapitre 8. Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront au dernier jour, Jésus, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas guéri des malades en ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait des grandes œuvres chrétiennes en ton nom? J'ai construit même une ONG chrétienne, Jésus-Christ en action pour les pauvres en ton nom. J'étais à l'église tous les dimanches au nom de Jésus. Quand j'étais en problème, j'ai prié au nom de Jésus. Mes amis, Matthieu 7, 21 dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est seulement ceux qui font la volonté, c'est-à-dire ceux qui ont soumis leur volonté, parce que c'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance, qui ont décidé, qui ont regardé Dieu, qui se sont vus eux-mêmes et qui disent, ta volonté sera ma volonté. Il dit ceci, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui hériteront le royaume de Dieu. Il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, allez loin de moi. Quelle est ta situation? Es-tu quelqu'un qui gravite autour du parvis? Ce n'est pas parce que tu as une Bible que tu es né de nouveau. C'est une expérience personnelle. J'ai dit, il y a trois expériences. C'est la première expérience. C'est une rencontre. Jésus vient entrer dans ta vie. Ça se produit un jour. On ne naît pas chrétien. Si depuis que tu es né, tu dis que tu es chrétien, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Si tu dis, non, regardez, pasteur, moi-même, je me comporte mieux que ceux qui vont à l'église. Mais ça ne veut pas dire que tu es fils de Dieu. Il y a des chrétiens nés de nouveau. C'est dommage, hein. Mais lorsqu'ils sont bébés, ils peuvent moins bien se comporter que toi. C'est un peu comme le singe. Il dit, regardez, vous dites votre bébé qui marche à quatre pattes là. Vous dites que c'est un homme. Moi, je suis plus homme que lui. Regardez, moi, le chimpanzé, j'arrive un peu à tenir sur mes jambes. Lui, il est à quatre pattes. Oui, mais toi, tu es un singe. Lui, c'est un homme. C'est pas pareil. Parce que autour de la clôture, ceux qui sont autour de la clôture de l'extérieur et ceux qui sont autour de la clôture à l'intérieur se ressemblent. Mais il y a un qui a eu une révélation, l'autre qui ne l'a pas eu. Il y a une expérience avec Dieu. Il a rencontré Dieu. Quand vous rencontrez Jésus, vous êtes subjugué. Et tu regardes ta vie. Et il faut comprendre cela. Le pasteur, il va enseigner sur les lois du royaume. Pourquoi tu as besoin de Jésus, mon ami? Il explique les lois du royaume. Et quand il a fini d'enseigner les lois du royaume, comment tu me dis, je suis foutu. Et c'est là que tu comprends la grâce de Dieu. Aucun homme, par les œuvres, ne peut être sauvé. Et puis, même si tu avais toutes les œuvres qu'il fallait, ce n'est pas les œuvres. Dieu veut te donner la vie nouvelle. C'est-à-dire, il veut te conduire dans la gloire. La religion ne conduit pas les gens dans la gloire. Abraham n'a pas vu il l'a vu de loin, mais il ne l'a pas touché. C'est ce que Jésus-Christ est venu apporter de plus. Jésus n'est pas venu améliorer la religion. Jésus a amené sur la terre une vie nouvelle. créer sur la terre une race nouvelle. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église, de faire la dîme, les offrandes. Tu peux faire tout ça et ne pas être fils de Dieu. J'aime raconter cette histoire qu'on connaît tous. Notre bouc qui voulait devenir. Qu'est-ce qu'il voulait devenir? Qui ne connaît pas cette histoire? Le bouc qui voulait devenir lion. Du livre des enfants, c'est un livre de l'école du dimanche. Bon, je rappelle cette histoire parce que ça traduit, je trouve que c'est vraiment la bonne image de la conversion. Moi, Jésus ne vous demande pas de rejoindre vase d'honneur. Il ne vous demande pas de rejoindre une église. Il ne vous demande pas de changer de religion. Jésus n'est pas une religion. On dit, mon frère, quelle est ta religion? Chrétien. On dit, maintenant, j'ai changé de religion, j'étais musulman. Tout ça, là, ça fait rien. Ce ne sont que des pratiques différentes qui parlent de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, mon frère, tout le monde parle de Dieu. L'islam parle de Dieu, on parle de Dieu. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question de naître de nouveau. On dit, toi, tu es quoi? Moi, je suis catholique, moi, je suis baptiste. On s'en fout de ça. Tout cela, c'est pour les gens charnels. Toute la religion est dehors. Mes amis, écoutez-moi. La religion n'est pas dans le tabernacle. Il n'y a pas de religion. Les gens qui se définissent, toi tu es quoi? Assemblée de Dieu, tu es quoi? Moi, vase d'honneur, rien. Et quoi? Catholique. Tout cela, c'est nul. Zéro. Ce ne sont que des formes pour satisfaire l'orgueil humain. Je suis pieux. Je fais mes offrandes tous les jours. Mais tu es à l'extérieur. Celui qui est loin, celui qui est proche de la clôture, c'est le même quartier. Seulement, tu n'es pas loin, mais quand même, tu es dehors. Tu n'es pas loin par la religion. Tu n'es pas loin par la prière. Parce que tu as accès au livre. Et le livre décrit le mystère caché. Mais tu n'y entres pas. Tu lis, tu ne comprends pas. Tu ne veux pas changer de vie. Et notre ami, le bouc, dans la forêt, voulait devenir un lion. Il regrettait d'être né bouc. Son souhait sur la terre, c'était d'être puissant comme un lion. Alors il va rencontrer son ami le singe. Singe, tu es l'animal le plus intelligent de la forêt. Donne-moi le secret. Comment je dois faire pour devenir un lion? Le singe lui dit, c'est très compliqué ça, mon ami, je sais. Le bouc lui répond, il paraît que tu es trop intelligent. Explique-moi. Le singe gratte la tête. Il dit, j'ai trouvé. Pour devenir un lion, il faut rugir comme un lion et avoir la démarche majestueuse des lions. Le bouc dit, c'est tout. Il dit, essaie de le faire. Le bouc va aller s'entraîner. Gloire à Dieu. Il va arriver à rugir. Quitter des bêlements pour arriver à rugir. Il rugissait mieux qu'un jeune lion. Mais est-ce que ça fait de lui un lion? Tu peux mieux parler que les chrétiens. Quand tu parles, ta parole est sage. Jésus ne parle pas d'une religion. Il te parle de naître de nouveau. Et quand Jésus a dit naître de nouveau à Nicodème, il parlait religieux. C'est pourquoi les gens sont venus et disent, mais Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il pensait qu'on achète le paradis. Il dit, moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais menti, je jeûne tous les jours. Jésus dit, mon frère, tu n'es pas loin, tu n'es pas encore entré. Ah, on entre comment? On peut pas, mes amis, on n'achète pas le ciel. C'est juste une invitation, une rencontre. Il faut comprendre cela. Amen. Bon, pour revenir à notre ami le bouc. Il a pu rugir mieux qu'un lion. Il a la démarche du lion. Il va voir le singe. Est-ce que je suis devenu encore lion? Le singe dit non, il te faut être carnivore. Les lions sont carnivores. Notre ami le bouc est tellement déterminé. Comme il y a des gens qui sont déterminés à être religieux. Ils vont des séminaires en séminaire. Il va s'aiguiser les dents avec des limes. Notre ami le bouc, jusqu'à avoir des dents pointues. Il va même apprendre à manger de la viande. Et voilà, avec un os dans la gueule, il se promène dans la forêt. Il rencontre la girafe. Il sort la démarche du lion. Et puis il rugit comme le lion. Quand la girafe entend, elle tourne la tête. Elle voit le bouc. Elle dit, bouc, qu'est-ce qui t'arrive? Le bouc a perçu cela comme une injure. Découragé, démoralisé, il va voir le singe. Il dit, singe, la girafe m'a reconnu. J'ai rugi. J'ai senti la démarche. J'avais un os dans la gueule.
Elle m'a appelé Book. Elle dit, Book, qu'est-ce qui t'arrive? Le Book dit, Serge, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire?
Serge réfléchit. Il dit, j'ai trouvé. Pour être un lion, il faut qu'on prévienne toute la forêt que tu es devenu lion. Donc, on va fabriquer une pancarte. On va écrire en grand là-dessus, lion, qu'on va accrocher à ton cou. Deuxième chose à faire, c'est que le lion est un animal communautaire. Les lions vivent ensemble. Tu vois, pour être un lion, il faut vivre au milieu des lions. Donc, tu rugis, tu marches comme un lion, tu remues la queue comme un lion, tu manges de la viande comme un lion. Maintenant, plus la pancarte lion et la vie au milieu des lions, il n'y a rien à faire, hein? Tu es lion. Notre ami Le Bouc, toujours déterminé. Avec son ami Le Singe, ils écrivent en grand lion sur la pancarte, on accroche sur le cou. Et maintenant, le voilà à la recherche d'une troupe de lions. Il arrive sur une montagne, il voit dans la vallée le groupe de lions en train de se prélasser au soleil. Donc du haut de la montagne, il pousse un rugissement terrible. Et il commence à descendre la montagne avec la démarche du lion et sa grosse pancarte sur le cou, lion. Les lions regardent. Ça dit, ah, il y a un lion qui dit. Ils voient, ils entendent le rugissement, ils voient la démarche, mais ils voient un bouc. Donc quand ils s'est approché, ils ont dit, oh, un repas nous arrive. Notre ami le bouc va venir essayer de s'étendre avec ses congénères lions. Malheureusement pour lui, je sais qu'on avait fini par bien l'aimer le bouc, mais les lions vont tout manger, sauf la pancarte. Alors, le livret de des enfants, c'est un livre de l'école du dimanche, dit ceci. On ne peut pas devenir chrétien comme ça. On ne peut pas être. Il faut naître fils de Dieu pour être fils de Dieu. Jésus parle d'une nouvelle naissance, pas de l'adoption d'une religion. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il ne faut pas adopter la culture chrétienne. Quand tu vas adopter la culture, comme notre bouc, il a adopté la culture lyonnaise, ça n'existe pas, mais j'invente le mot. Il a inventé cette culture, il s'est trempé dans la culture des lions. Mais ça n'a pas fait de lui un lion. Tu peux te promener avec une grosse Bible, ressembler aux chrétiens. Mais ça ne fait pas de toi un fils de Dieu. Tu n'es pas encore dans le royaume. Tu n'es pas loin. Mais tu n'y es pas. Tu peux chanter à la chorale. Jésus, tu peux te prosterner même. Mais si tu n'as pas rencontré, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas au ciel. Lis la Bible. C'est ce que Jésus-Christ enseigne aux religieux. Tu peux croire même dans ton esprit que Jésus, il est grand. Comme les païens même croient en Dieu. Même Satan même sait que Dieu existe. Ce n'est pas un exploit. On dit, tu crois en Dieu, oui. J'ai mieux qu'il est raté. Mais croire en Dieu, ça ne fait rien. Ton ennemi aussi, tu crois qu'il existe. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes amis. Tous ceux que tu respectes, tu les respectes, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes des amis. Le bouc a rugi. Tu peux avoir le langage chrétien. Mais ne pas être né de nouveau. C'est dit, non, pour être chrétien, il faut marcher, il faut être dans une église. Tu peux être dans une communauté. Et Dieu va te citer, comme Matthieu 7:21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Toi, tu n'y es pas. La première expérience à faire pour devenir ami de Dieu, pour retrouver la gloire perdue, c'est la nouvelle naissance. Tu dois prendre une décision, si tu ne l'as pas encore faite aujourd'hui, et inviter vraiment Jésus. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Tu dois savoir que la vie que tu as vécue avant, quelle que soit sa piété, ne te compare à aucun païen ou à aucun chrétien sur le plan comportemental. Ça n'a rien à voir avec le comportement. Au départ, le comportement vient après. On n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est une grâce. Le seul péché qui est en toi est suffisant pour que Dieu te rejette.
Il t'offre une faveur nouvelle.
Alléluia. Alléluia. On va vers la fin. Jean chapitre 8, verset 30. Il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc plusieurs des personnes ont cru en Jésus. Verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36 de Jean 8. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Je vais juste m'arrêter là d'abord. Au verset 30 de ce Jean 8, il est dit que Jésus prêchait, peut-être comme je parle aujourd'hui, et la Bible dit à cause de son message, peut-être aussi à cause de ses miracles, il y a plusieurs qui ont cru en lui. Maintenant, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc voilà des personnes qui ont cru en Jésus. Et quand vous continuez ce passage, je n'ai pas le temps de lire jusqu'à la fin, vers la fin du chapitre, ces hommes qui avaient cru en Jésus ont pris des cailloux pour vouloir tuer Jésus. Il y a des hommes, comme décrit le Seigneur, qui croient en Jésus, qui croient que Jésus est puissant, il est bon, qui le prient même, comme ces Juifs, mais qui n'ont pas laissé la vérité de Dieu transformer leur cœur. Jésus a dit ceci, à ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va dire à ces Juifs qui avaient cru en lui? Il dit, donc si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils disent, mais nous, on n'est pas des esclaves, on appartient déjà à la religion abrahamique. Il dit, mais si vous étiez même, si vous avez compris ce qu'Abraham disait, vous allez me reconnaître. Il dit, mais vous êtes des esclaves, vous êtes des enfants du diable. Il dit, quoi? Parce que Dieu leur a dit. Il va leur dire ceci, que celui qui commet le péché est esclave du péché. Un des signes qui montre qu'on n'a pas reçu Jésus, un symptôme, c'est le fait qu'on se laisse aller au principe de sa chair, l'iniquité. Quand Jésus te transforme, ta conscience se lève. Le chrétien qui est né de nouveau, au départ, lorsqu'il est bébé, il peut avoir quelques problèmes de lutte avec la colère, avec des choses comme ça. Et il est né, la vie en lui, mais il y a un temps de flottement, il y a un temps de choses un peu compliquées. Mais celui qui n'est pas né de Dieu, il pêche sans regret même. C'est-à-dire, c'est la personne est à l'église et puis elle est dans l'adultère. C'est-à-dire, elle vient comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que la Bible appelle les esclaves. Il dit ici, il dit, vous êtes des esclaves. Il y a des gens qui sont à l'église, ils mentent, ça ne leur dit rien. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Vous savez, quand Jésus-Christ entre en vous, il y a une conscience nouvelle qui prend place. Le péché ne peut pas vous faire plaisir. Chrétien vient à l'église pour chercher à se marier, chercher les gars, les gars, les trucs comme ça. Tu n'es... Peut-être même toi-même, tu es un peu loin quand même du parvis. Comment tu peux venir séduire les gens à l'église? Mais il y a des gens comme ça. Pour commettre l'impudicité. Les personnes qui portent le titre de pasteur. Celui à qui Jésus parlait était un docteur de la loi, c'est-à-dire expert. Dans la parole de Dieu, Nicodème, un expert, un docteur, mais il n'était pas sauvé. Beaucoup prêchent la parole, mais ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Et vous les voyez là avec les titres de pasteurs qui courent après les filles, divorce après divorce, vie de débauche. Ce sont des esclaves. Jésus dit ceci. Les esclaves ne demeurent pas toujours dans la maison. C'est-à-dire, ce sont des gens qui trottent autour de la clôture. Mais ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent pas, ils vont pas demeurer. Parce que Jésus-Christ ne les a pas transformés. Si c'est ton cas, répands-toi. Aujourd'hui, là, accepte Jésus. Arrête de te tromper toi-même. Tu sais, parce que tu ne trompes personne. Même si le pasteur croit que tu es chrétien, il t'a même nommé diacre, ancien pasteur. Mais tu connais ton cœur. Parce que c'est une affaire de cœur. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, si tu es encore dans l'impudicité, tu es dehors. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9. Si tu vis encore dans le mensonge, tu es de l'autre côté de la clôture. Tu n'es pas encore dedans. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, il te délivre du mensonge. Quand je me suis converti, je ne savais pas trop s'il fallait arrêter certains péchés. Je me demandais, je dis, mais on peut tricher, on ne peut pas tricher. Parce que quand je suis converti, je n'ai pas pu aller à l'église comme vous. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Je n'avais pas de Bible. J'étais tout jeune, mes parents ne m'autorisaient pas. Alors je m'assois, j'ai réfléchi. Et c'est ma conscience qui m'aidait un peu. Et un jour, j'étais en classe. Je voulais tricher. En fait, j'ai triché même. Et puis, il y a une sœur qui était de l'autre côté, elle m'a dit, tu parles de Jésus et tu triches. Mais cette phrase-là, ça m'a piqué comme... J'ai eu mal. Et ce jour-là, j'ai pris la décision. J'ai senti que j'avais péché contre Dieu. J'étais tout nouveau chrétien, ça faisait quelques semaines. Parce que la vie est en moi. Moi-même, quand je voulais tricher, là, j'étais mal à l'aise. Mais j'ai dit, bon, j'avais des fausses doctrines, aide-toi, le ciel t'aidera, les trucs comme ça. Je comprenais le devoir, je devais expliquer ça à un ami qui avait des problèmes. Donc pour moi, il faut aider quelqu'un en difficulté. Mais c'est la tricherie. Et qu'elle m'a dit, dans mon esprit, j'ai senti que c'est ce à quoi j'aspirais. Je ne peux pas être un tricheur. Quand vous êtes né de nouveau, l'esprit vous parle. Vous avez un petit message à l'intérieur de vous qui montre ce qui n'est pas votre place. Sans ce moment-là, on réfléchissait si on doit aller, continuer encore à aller en boîte ou on ne va pas. Mais quand toi-même tu vas là, tu sens que l'esprit commence à être dérangé. Si tu vas dans ces endroits-là et puis tu viens, tu dors tranquille, c'est-à-dire, tu ne sens même pas encore quelque chose briller dans ton cœur un peu pour te dire, est-ce que ce que tu fais est correct? Je t'assure, mon frère, tu es de l'autre côté de la clôture. Tu n'as pas encore connu Jésus. Il y a un temps où on peut flirter parce qu'on n'a pas encore bien compris. Mais ce sont les bébés. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, on te demande même de faire un contrat qui est faux, où tu gagnes de l'argent. Tu te sens très mal à l'aise. Et même si tu arrives à signer, à mentir, tu n'arrives même pas à dormir. Tu te sens mal à l'aise. Tu as envie de voir un frère même pour parler, pour pouvoir te confesser. Ça montre qu'il y a déjà une vie qui a commencé à brûler en toi. Mais quand tu deviens indifférent, tu es indifférent, tu es de l'autre côté de la clôture. Tu essaies de monter le mur là. Mais Jésus dit, il ne faut pas rentrer. La Bible dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui essaie de passer ailleurs est un voleur. Il y a des gens qui veulent voler le royaume des cieux. Non! On dit les violents, ça n'en parle pas les voleurs. Ce sont les violents de la porte. Il y en a qui veulent voler, qui veulent passer par la clôture. Il y a un rideau d'entrée. Le rideau d'entrée te donne la révélation. Pas par la clôture. Et je t'interpelle aujourd'hui de la part du Seigneur. Les jours viennent, des jours glorieux pour les fils de Dieu. Le temps de révélation arrive. Il faut que tu aies connu Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse la religion. Il y a des païens qui se comportent bien, mieux que certains chrétiens, mais ils ne sont pas sauvés forcément. Ça, c'est la bonne éducation, les bons principes de vie. Mais très attention, ce n'est pas le salut encore. Jésus, c'est une rencontre. Amen. 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 Quand tu es né de nouveau, on peut me ramener l'image du tabernacle. Amen. Quand tu es né de nouveau, si tu as compris le message que je dis, tu arrives devant ce rideau. Dans le monde spirituel, dans ta pensée. Et tu vois le bleu, il y a du bleu. Le bleu est un peu comme le ciel qui te parle de l'espérance. Tu sais que en Jésus, tu as de l'espérance. Amen. Le rouge, reconnaît le sang. Cette couleur du sacrifice de Jésus. Il y avait aussi la couleur pourpre, un peu comme ce rideau que nous avons là. Qui présente la royauté. Dieu t'appelle à régner. Alléluia. Par le sacrifice de son sang, avec l'espérance. Le blanc de la clôture nous parle de la sainteté. Pour dire, ce qui est impur n'entre pas là-dedans. Mais ceux qui sont décidés, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est une décision. La décision de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Une fois qu'on a passé le rideau, on doit immédiatement venir à l'autel. Comment on appelle ça? On est toujours dans l'être intérieur, n'est-ce pas? Rencontrer Jésus, c'est dans son cœur. Tu n'as pas à voir une grande lumière apparaître. C'est maintenant, pendant qu'on parle, tu prends la décision. Je vais prier pour toi tout à l'heure, si tu veux donner ta vie à Jésus. Et lorsque tu l'as fait, il y a des gens qui sentent le feu les brûler, qu'ils sentent la présence, qu'ils frémissent, que le nom du Seigneur soit béni. Mais on peut ne rien sentir. On ne cherche pas les sensations physiques. Il faut savoir que la chair là, est un voile qui cache la vérité de qui tu es réellement. Amen. Amen. Ah, dimanche prochain, on va toucher des choses très très profondes. Alléluia. Et lorsque tu passes, tu arrives là à l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes est l'endroit qui amène beaucoup de gens à ressortir. Et quand ils voient le feu là, et tu as décidé d'abandonner le péché, mais les graines de péché qui sont restées dans ta chair, vous voyez comment on a retiré l'or de la terre et encore à l'intérieur de l'impureté. On doit mettre l'or au feu. Et pendant qu'il brûle, la terre et tout ce qui est saleté disparaît, est consumé, et ce qui est de la qualité demeure. Comme tu as pris de mauvaises habitudes en étant païen, l'autel des holocaustes, le feu de Dieu, doit te travailler. Amen. Malheureusement, certains ne laissent pas le feu finir de les brûler. Et au milieu, il dit, aïe, aïe, puis il saute. Ça nous donne des chrétiens, hein, tantôt qu'il dit des chrétiens sauteurs. Non, c'est pas, ils n'ont pas. Les chrétiens qui ne laissent pas Dieu, je vais expliquer ceux qui ne laissent pas Dieu les transformer. Donc ça donne une catégorie de chrétiens, on revient à l'image du tabernacle, qui vont commencer à graviter dans le parvis, mais vers la clôture. C'est-à-dire qu'ils sont des chrétiens, nés de nouveau, mais pas très loin des païens aussi. Et ils restent comme ça, après de longues années de chrétiennes. Hein, il y en a qui demeurent tellement dans cette position, on appelle les doyens du parvis. Allez, les chrétiens, ils ont rencontré Jésus. Mais quand tu gravites autour de la clôture, mon ami, tu vas passer de l'autre côté après. Ils sont nés de nouveau, mais ils aiment les choses du monde. Ils sont dans l'esprit du monde. Ce que les païens aiment, c'est ce qu'ils aiment. Ils n'aspirent pas aux choses spirituelles, aux choses profondes. Lorsque l'autel des holocaustes a travaillé en vous, vous avez la soif de l'intimité de Dieu. Mais quand l'autel des holocaustes n'a pas travaillé en toi, tu te contentes simplement d'aller au paradis. Tu dis, si je crois en Jésus, je vais au ciel, c'est le plus important. Ils sont charnels. Ouais, c'est le genre de chrétiens qui aiment beaucoup les musiques du monde. Ce n'est pas péché, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Rappelez-vous, bon, agréable, parfait. Pour être l'ami de Dieu, il faut chercher au moins les choses agréables à Dieu. Il y a des choses que tu fais, une fois que tu arrives dans le parvis, qui ne sont pas péchés. Mais lorsque toi-même tu les fais, tu sens que ça ne peut pas faire plaisir à Dieu. Amen. Et nous toucherons ces points-là. Et quand tu vas les saisir, tu vas savoir que ceux qui veulent atteindre une couronne se privent de certaines choses. Amen. Alléluia. Tu dois laisser Dieu te transformer pour toucher ce que tu recherches profondément. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la parole de ce jour. Amen. Alléluia. Pendant que nous avons les têtes baissées, je veux nous inviter dans la prière. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui ont reconnu qu'ils ont commencé à revenir vers la clôture pour passer de l'autre côté, pour repartir dehors. Mon ami, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à rester à l'intérieur, à rester, à demeurer en lui. Mais il y a quelques-uns parmi nous qui sentent, malgré peut-être le nombre d'années qu'ils fréquentent les églises, qui sentent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Cher ami, il ne faut pas avoir honte. Il faut ce matin prendre la décision de donner vraiment ta vie à Jésus, de le recevoir comme ton Seigneur, comme le maître de ta vie, comme celui dont la volonté dirige la tienne. Dieu, ton Seigneur.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from here.